Invité du grand entretien ce matin, un spécialiste des questions numériques et des réseaux sociaux, directeur du Media Lab de Sciences Po et auteur entre autres en 2019 de Culture Numérique. Bonjour Dominique Cardon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé hier soir dans une courte vidéo le changement de nom de son groupe qui va s'appeler désormais Meta. Autant vous dire que l'annonce suscite ces dernières heures sarcasme et critiques sur les réseaux car ce qui continue d'alimenter les débats, ce sont les révélations sur les dérives de Facebook. Réseau social aux plus de 3,5 milliards d'usagers, ses algorithmes devenus incontrôlables, ses effets sur la santé des jeunes, ses fausses nouvelles répandues à grande vitesse, menaces pour les démocraties, tout cela sans quasiment aucun contrôle, ce que la lanceuse d'alerte et ex-salarié du groupe Frances Haugen résume par la formule suivante. Facebook place le profit avant l'humain, Frances Haugen qui sera entendue dans un peu plus de 10 jours à l'Assemblée nationale par les députés français. Auditeurs de France Inter, j'attends vos questions pour Dominique Cardon au 01 45 24 7000 ou via les réseaux sociaux précisément, l'appli France Inter. Question sur Facebook mais aussi sur le débat public en France, l'éducation aux médias dont Dominique Cardon est également un fin connaisseur. Pour commencer par Facebook donc, vous qui travaillez depuis des années sur les réseaux sociaux, êtes-vous surpris par ce grand déballage?
Facebook est dans l'œil du cyclone, l'intensité des critiques ne cesse de se renforcer, mais en réalité Facebook est au cœur, dans l'œil du cyclone depuis maintenant des années, on pourrait dire depuis les années 2015-2016 et l'élection de Donald Trump, le Brexit et toute une série d'événements. Donc en fait c'est une accumulation de scandales, de révélations à propos de Cambridge Analytica, à propos des campagnes présidentielles.
Ces millions de données qui avaient fuité de Facebook.
Voilà, absolument. À propos des pannes de Facebook, aussi des crises à propos de l'utilisation de Facebook, puisqu'en réalité, les usagers de Facebook eux-mêmes sont en train un petit peu de s'amaigrir, et notamment la jeunesse est en train de disparaître de Facebook, et puis il y a toute une série de scandales. Alors, ce que nous dit Frances Haugen est à la fois évidemment important.
Oui, qu'est-ce que vous avez appris finalement?
Mais on apprend pas énormément de choses de nouvelles, parce qu'en réalité, une grande partie de ces difficultés, de ces problèmes de Facebook sont des choses qui étaient déjà connues, qui ont été établies par des chercheurs, et une partie d'ailleurs des révélations qu'amènent ces papiers sortis de Facebook étaient des choses qui étaient en partie public, mais quand même, voilà, ça ajoute une nouvelle pièce au dossier.
Là, c'est quelqu'un qui était en charge de la régulation, justement, qui prend la parole.
Oui, mais elle intervient dans une liste où vous aviez Sophie Zhang, qui était dans l'équipe intégrité de Facebook aussi, qui avait déjà fait toute une série de révélations. Mais bon, on voit que ça dysfonctionne fortement. Non pas que Facebook ne fasse rien, mais que, en réalité, Facebook essaye de résoudre un certain nombre des difficultés qui apparaissent de façon de plus en plus massive dans un contexte et avec des moyens qui sont très largement insuffisants, compte tenu en fait de la taille et de l'ampleur qu'a pris aujourd'hui Facebook aujourd'hui. Et en réalité, chaque fois, c'est très très difficile à gérer. Et on voit bien, voyons, prendre le débat sur la modération. En réalité, la modération, ce sont des millions de commentaires qu'il faut arriver à regarder. Et ces millions de commentaires, vous êtes une grande entreprise comme Facebook, mais si vous consacrez que 0,5% de votre bénéfice à payer des modérateurs, c'est pas suffisant. Et même des humains, voilà, sont un petit peu insuffisants pour arriver à résoudre ce genre de tâches. Facebook découvre que le monde est compliqué en réalité. Beaucoup de naïveté politique avait été faite. C'est des gens de technologie. Ils sont venus avec l'idée que la société finalement était assez sympathique et qu'on allait encourager la société à se connecter, à échanger, à partager des informations. Ils découvrent que la société c'est compliqué, qu'il y a des tensions, qu'il y a des conflits, qu'il y a des guerres, qu'il y a des rapports sociaux qui sont tumultueux et que tout ça s'enregistre dans la base, dans Facebook, et que eux, ils savent pas très bien le contrôler, et que sans doute leur responsabilité sociale et politique aujourd'hui doit être très importante, et qu'ils n'en ont pas complètement assumé.
Alors,
les rôles.
Ils ne savent pas tout contrôler, voire plus du tout. Il y a la question des algorithmes au cœur de ces révélations. Ce sont les programmes qui déterminent les contenus que vous voyez arriver sur votre compte, algorithmes qui sont secrets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Dominique Cardon, comment fonctionne un algorithme Facebook? C'est quoi le principe?
Alors, c'est important de dire, bon, d'abord, il a beaucoup changé et une partie des troubles sont liés
au fait... Ça évolue en permanence.
Ça bouge en permanence, puis surtout, Facebook modifie son orientation. Dans ce débat sur les algorithmes, on a une tendance à dire, qui est assez fautive, hein, de dire c'est de la faute de l'algorithme, à cause de Facebook et l'algorithme, qui est une manière, à bon compte, qu'ont nos sociétés de dire, bah, finalement, on réparerait l'algorithme et puis on réparerait...
Il y a un problème dans le moteur, il suffit de réparer le moteur.
Facebook et puis on aurait réparé la démocratie. Bon, c'est plus compliqué que ça parce que l'algorithme, évidemment, il y a des intentions et les objectifs que Facebook donne à son algorithme. Et parmi ses objectifs et ses intentions, il y a celui d'optimiser une variable. Et cette variable, c'est le temps que nous passons à consulter Facebook. Donc en fait, ils ont énormément de signaux ou de variables sur ce que font les utilisateurs, qui sont des enregistrements de nos actions. De nos activités, de nos clics, du temps qu'on passe à regarder tel ou tel contenu. Ils vont chercher à trouver quels sont les meilleurs contenus pour nous faire rester le plus longtemps. Mais donc être une sorte de coproduction entre les traces données par les utilisateurs et les choix que font Facebook. Je voudrais prendre juste un exemple pour essayer d'être concret.
Allez-y.
Les révélations de Francis Hogan ont fait apparaître que Facebook donnait plus de poids au contenu qui avait cette petite image, émoticône de la colère par rapport au cœur. Hein. Alors pourquoi Facebook fait ça? Facebook fait ça parce qu'il a observé nos comportements. Et il a observé nos comportements, et prenez votre cas, prendre mon cas, on a notre fil d'actualité sur Facebook, on voit passer plein d'informations intéressantes. Le Monde sort une grande enquête sur la France, en 100 articles différents, tel ou tel journal fait telle information. On trouve ça intéressant, puis on se dit, ça a l'air vraiment passionnant, mais je vais pas le lire, je passe. Puis tout d'un coup, il y a un haineux qui interpelle un autre haineux, et ils sont en train de se disputer. Et là, tout d'un coup, mon attention s'arrête, et je vais commencer à cliquer, puis je vais regarder les commentaires, puis je vais regarder les raisons de la dispute, etc. Mon clic, mon attention, le temps que je passe dessus, je donne à Facebook un signal que ça m'intéresse.
Ce que dit Frances Hogan, c'est que au-delà de ça, le second contenu dont vous parlez, le contenu haineux, va être plus valorisé que le premier contenu avec du fond, avec de l'enquête. C'est l'algorithme qui le valorise, ce ne sont pas les utilisateurs l'approuvant.
Alors ce que je cherche à vous dire, c'est que nous le faisons ensemble. Parce que si Facebook le fait,
les responsabilités sont partagées.
Les responsabilités sont partagées. Si Facebook le fait, c'est parce que il sait que nous sommes plus attentifs à ce type de contenu.
Mais tout de même, dans ces révélations notamment, on a constaté qu'en Inde, des vidéos pornographiques se sont retrouvées mises en avant et personne n'a su expliquer pourquoi du côté de Facebook. Est-ce que la machine a échappé à son créateur ?
C'est une chose qui apparaît beaucoup. Facebook, c'est une entreprise américaine. On pilote en partie depuis Menlo Park dans la Silicon Valley un système qui se prétend mondial et d'une certaine manière qui voudrait échapper à la territorialité des différents États. Et donc, ce qui apparaît, c'est que Facebook est d'une très très grande incapacité à contextualiser dans chaque pays, dans chaque continent, la gestion et la modération de ces contenus. Ils ont trois personnes qui parlent birman pour contrôler les contenus en Birmanie.
Trois personnes.
Voilà. Alors. Évidemment, du coup, les décisions qui sont prises à la fois par l'algorithme, qui est très instable et qui peut produire des effets chaotiques, qui ne sont contrôlés par personne et qui ne sont pas non plus perceptibles ou interprétables par les ingénieurs même de Facebook. Mais si en plus vous n'avez pas une sorte d'ancrage territorial, de compréhension de la nature des rapports sociaux et politiques du pays, vous commettez toute une série d'erreurs. Ce qui apparaît très bien dans les travaux de Francis Hogan, mais les ONG des droits de l'homme l'avaient déjà fait apparaître depuis très longtemps, c'est qu'en réalité, sur la langue arabe, sur toute une série de pays, en Inde, aux Philippines, etc., il y a un petit peu de personnel de Facebook, mais vous voyez, cette idée que la société est dense, qu'elle est complexe et que du coup il y a besoin d'une responsabilité sociale et politique qui engage Facebook réellement parce que Facebook a pris une importance décisive dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie culturelle de ces pays. Ça, Facebook n'a pas mis assez de moyens et sans doute aussi l'idée d'avoir un système monde comme ça est quasiment ingérable. Voilà.
Ce qui a beaucoup frappé aux États-Unis, au-delà de ces dérives et ce manque de régulation à l'étranger, c'est l'impact du réseau social Instagram, filiale de Facebook, sur les adolescentes obsédées par leur image, au point de développer des troubles alimentaires et psychologiques, voire des dépressions. Là encore, Facebook savait, il y a eu un rapport interne de fait, mais il n'y a eu aucune action d'engagée.
Oui, là, je ne sais plus. Il faut beaucoup de nuances sur ces affaires. On a plein d'enquêtes, des travaux de psychologues qui nous disent ça, mais vous savez, les psychologues nous disent ça pour plein d'autres contenus que nous pouvons utiliser, consommer. Ils l'ont dit pour le cinéma, ils l'ont dit pour la violence dans les émissions, etc. Effectivement, dans les enquêtes, il apparaît clairement, mais là, on n'a pas besoin des révélations de Francis Hogan. Beaucoup d'enquêtes sont publiées montrant qu'effectivement, il peut y avoir en termes d'estime de soi sur certaines personnes dans des comportements addictifs à Facebook. Cette idée que finalement, qu'est-ce que c'est qu'Instagram ? C'est une société de la comparaison des visibilités et des notoriétés dans lesquelles chacun se compare aux autres et que ça peut avoir évidemment sur les adolescents des effets qui peuvent être néfastes, voire toxiques. Mais là aussi, la question est de savoir pourquoi nos sociétés le font, pourquoi nous passons autant de temps sur Facebook et pourquoi cette quête assez vaine de la notoriété ou de la visibilité est parfois encouragée, elle aussi, par les plateformes et leurs algorithmes.
Facebook a les moyens de réguler 9,2 milliards de dollars de bénéfices nets au troisième trimestre de cette année, 17% de plus en un an. Alors quoi, toujours plus de profits, un aveuglement vis-à-vis des risques. Pourquoi ce refus d'investir davantage dans la régulation? Vous nous disiez 0,5%, c'est ça?
De leurs bénéfices pour les modérateurs. Bon, depuis la crise de 2016, en réalité cette crise elle date, elle a vraiment commencé même avant 2016, mais en 2016, Facebook a mis en place toute une série de mesures, et certaines sont très bonnes sur certains effets de l'algorithme publicitaire, sur d'autres aspects. Mais en réalité, vous voyez, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est jamais assez. Et puis Facebook, on pourrait dire, c'est une entreprise un peu bicéphale, vous savez que, et d'ailleurs les chercheurs, nous, on rencontre qu'une seule partie de l'entreprise, qui est l'équipe Integrity, hein, donc ils s'occupent effectivement, ils sont sympas.
Ils sont ceux qui sont chargés de la modération.
Ils sont surtout chargés de développer des nouveaux produits, d'aider la société civile, d'encourager, parce que c'est aussi le cas. Ces réseaux sociaux ont favorisé des mouvements politiques, la vitalité du débat public, ils ont encouragé toute une série de choses qui sont plutôt très positives pour nos démocraties. Mais vous avez une autre équipe à l'intérieur de Facebook qui s'occupe de la croissance, growth. Et cette équipe qui s'occupe de la croissance, elle est obsédée par l'optimisation du temps que nous allons passer sur les réseaux sociaux. Son seul objectif, c'est d'augmenter le nombre d'utilisateurs de Facebook. Ils sont manifestement très performants. Vous voyez, les chiffres et les bénéfices trimestriels de Facebook sont considérables. Et il est probable, et il est même certain, qu'ils ont une influence bien plus considérable que l'autre équipe au sein de Facebook. Donc c'est en fait une tension qui est dans notre société, mais c'est aussi une tension qui est à l'intérieur même de l'organisation, d'où les fuites régulières d'une partie des acteurs de cette organisation, qui y sont venus pour essayer de l'ancrer beaucoup plus concrètement dans nos sociétés et qui évidemment ont rencontré les difficultés internes au sein de Facebook et qui du coup sortent avec les documents.
Vous insistez beaucoup, Dominique Cardon, sur la co-responsabilité finalement. Il y a les algorithmes de Facebook, il y a Facebook qui veut propager peut-être des contenus haineux parce que ça permet d'avoir plus de trafic en quelque sorte, mais il y a aussi notre propre responsabilité. Théophile nous écrit sur franceinter.fr: à partir du moment où utiliser Facebook, c'est accepter de donner un certain nombre de nos données personnelles, demander à Facebook de ne pas les utiliser alors que nous sommes sur les réseaux, n'est-ce pas hypocrite? Et puis remarque de Paul, l'algorithme ne fait que révéler nos propres comportements, ne faudrait-il pas commencer par nous accepter nous-mêmes?
Alors, ça n'enlève aucune responsabilité à Facebook, mais nous donnons des informations et des traces à Facebook. Et moi je voudrais le prendre pour, gardant mon exemple sur la haine, c'est que si nous étions moins intéressés par toutes ces vaines polémiques qui sont présentes sur les réseaux sociaux, on verrait la véritable diversité de l'information sur le web. On s'intéresserait à autre chose que ces polémiques constantes qui viennent d'une certaine manière polluer le débat public, qui du coup fabriquent une sorte d'agenda médiatique qui nous concentre sur certains types de débats ou de discussions qui sont amenés par des acteurs qui y ont intérêt. Et ça, c'est là que Facebook doit découvrir que nos sociétés sont plus dures que ce qu'ils imaginent. Il y a des acteurs politiques, il y a des intérêts économiques, il y a toute une série de fabrications, notamment par l'extrême droite. On l'a vu aux États-Unis et on le voit aussi beaucoup dans la production de ce qu'on appelle les fake news. C'est-à-dire, vous avez toute une série d'acteurs qui savent très bien comment fonctionnent les algorithmes, qui savent très bien comment les manipuler, qui savent très bien comment faire monter un hashtag et qui savent très bien, du coup, comment tout d'un coup, on va polluer et prendre en otage la conversation dans le débat public avec des polémiques qu'on a fabriquées avec l'aide des algorithmes. Mais vous voyez que c'est bien une co-responsabilité entre nos sociétés et les algorithmes.
Renvoyer à la responsabilité individuelle, n'est-ce pas comme dire à des fumeurs, on va pas légiférer, on va pas augmenter le prix du paquet de cigarettes, vous avez qu'à arrêter de fumer finalement, personne ne vous oblige à aller acheter des cigarettes.
Non, il faut réguler Facebook, c'est un grand débat, un débat qui a aujourd'hui pris sa forme depuis longtemps aux États-Unis, mais qui devient très important aujourd'hui dans le débat débat public. Il y a une question de régulation de position dominante sur le marché. Il est évident que Facebook et Google et quelques entreprises occupent aujourd'hui trop de place dans l'économie numérique et bloquent l'innovation. C'est ce qu'une partie du débat américain, notamment sur l'idée de démanteler et de couper Facebook, Instagram et WhatsApp. On pourrait l'imaginer, c'est compliqué à faire, mais on pourrait l'imaginer. Il y a des débats sur la régulation dans lequel Facebook aussi essaye de dire, bah écoutez, on voit bien que moi j'ai une charte privée d'utilisation, elle est privée, je peux faire ce que je veux, mais je vais quand même demander une sorte de cour suprême que Facebook vient d'inventer, et une cour suprême auprès de laquelle je déposerai toute une série de cas problématiques, et puis ces juges internationaux, grands militants des droits de l'homme, me diraient les contenus que je dois retirer ou que je ne dois pas retirer. C'est une solution qui est un peu hypocrite, parce que quand Facebook a créé cette oversight board, cette cour suprême, il a aussi dit, il n'a pas dit en tout cas qu'il allait appliquer de façon automatique les décisions qu'elle allait lui donner. Et puis il y a un enjeu fort, qui est, et là je pense pour les autorités de régulation, c'est de prendre en compte le fait qu'aujourd'hui on est face à une telle abondance de contenu qu'il va falloir aussi utiliser les algorithmes pour modérer les contenus sur Facebook. C'est ce que fait déjà massivement sur Facebook pour la propriété intellectuelle, pour la pédopornographie, pour toute une série de contenus. Et aussi, sans doute, pour le discours de haine, c'est-à-dire de se dire, on a besoin de comprendre comment Facebook essaye de mettre en place des conditions de limite de certains types de discours pour arriver à les enlever de sa plateforme. Mais pour ça, il faut absolument que l'autorité de régulation puisse surveiller, auditer et accéder aux données de Facebook pour voir ce que fait Facebook.
Justement, on a une question de Michel Jean qui nous dit « Pensez-vous que les territoires et acteurs locaux peuvent faire quelque chose contre les géants du numérique ? Est-ce qu'on peut réguler ?»
Mais vous voyez bien que c'est assez difficile, parce que là, la régulation, les grands enjeux de régulation, ils passent plutôt par des acteurs. C'est des rapports de force, vous voyez. Facebook, c'est maintenant une sorte d'empire d'État qui crée son métaverse aujourd'hui.
On va en parler.
Et que pour ça, c'est plutôt au niveau de la Commission européenne qui, à travers deux textes importants qui sont sortis l'année dernière, le Digital Service Act et le Digital Market Act, sont en train de mettre en place les cadres d'une régulation où effectivement Facebook serait redevable de la possibilité pour les acteurs publics de leur fixer des cahiers des charges précis et de pouvoir vérifier, en entrant dans Facebook et en entrant dans ses bases de données, ses calculs et ses algorithmes, si Facebook met bien en œuvre tous les moyens possibles pour éviter les accidents dont on parle.
Question de Benjamin au standard de France Inter 01 45 24 7000. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour, je voudrais vous poser une question. J'ai 47 ans, je me suis inscrit sur Facebook il y a 10 ans, je suis resté 3 mois, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun intérêt. On vit très bien sans Facebook, dans la vraie vie, et le métavers là que nous propose Facebook, est-ce que ça va pas nous générer des générations d'ados obèses et fous, finalement, avec un casque à 900 € sur la tête, qui s'imagineront être des superstars dans un univers qui n'existe pas. Mais on peut très bien vivre sans Facebook. Sincèrement, WhatsApp, c'est compliqué, mais Facebook, on vit très bien sans.
Les bons et les mauvais réseaux sociaux, nous dit Benjamin. Le métaverse dont Mark Zuckerberg a parlé hier soir, c'est ce monde parallèle numérique dans lequel on pourra, avec un casque de réalité virtuelle, faire nos courses, avoir des relations sociales, jouer, etc. Facebook vise 1 milliard d'utilisateurs d'ici 10 ans. Dominique Cardon.
C'est la stratégie d'aujourd'hui. Elle est, à vrai dire, très très étrange. C'est-à-dire que c'est une vraie diversion. Finalement, Facebook a des problèmes avec nos sociétés. Il a des problèmes avec nous, les terrestres. Voilà, on ennuie Facebook, on critique, on n'est pas content, on pense que les algorithmes devraient être mieux réglés, on pense aussi que Facebook nous prélève trop de données. Et qu'est-ce que nous dit Mark Zuckerberg? Il nous dit, les terrestres, c'est trop compliqué, je vais vous emporter ailleurs, dans un métaverse. Ça fait partie de l'imaginaire d'Internet, cette idée des mondes virtuels, depuis très longtemps. C'est-à-dire que soit sous la forme de réalité augmentée, ça avait été une expérience menée par Google qui a complètement échoué, qui s'appelait les Google Glass, soit à travers une réalité qui est vraiment virtuel et qu'on pourrait équiper, c'est-à-dire qu'effectivement il faut porter un casque pour se transporter au bureau, dans les lieux de divertissement, dans les commerces. Facebook n'oublie jamais les commerces dans son univers virtuel, pour faire du sport, pour faire la fête, etc. on essaye de fabriquer, non seulement Facebook a pris une emprise sur nos sociétés, certains la comparent, je suis pas entièrement d'accord avec cette comparaison, mais à une sorte d'État qui a sa propre souveraineté, qui exerce son emprise sur nous. On a des rapports de force qui sont entre États-Unis, Chine et puis Facebook, comme si c'était un continent. Il est en train de nous dire, moi je vais vraiment le construire, mon État et mon monde, ça va être ce métaverse et je vais vous projeter dedans. C'est un petit peu bizarre, parce que cette idée est présente depuis très longtemps. On a eu une expérience dans les années 2000 qui s'appelait Second Life, qui marche très bien pour les jeux vidéo, mais pas pour le reste. Mais c'est un tout petit peu bizarre, à l'époque où on sort du confinement, de nous dire, finalement, je vais vous reconfiner derrière un casque où vous allez être chez vous, parce qu'en fait, en réalité, vous allez être chez vous, mais vous allez avoir vos réunions de travail, vos discussions avec vos amis, vous allez aller au concert à travers des lunettes virtuelles.
Vous parliez de l'influence de Facebook. Question d'Albert. Bonjour Albert.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
J'ai eu l'occasion de lire il y a quelques années un rapport de la CIA qui prévoyait que Facebook, Google et quelques autres sociétés allaient devenir en fait les maîtres du monde en surpassant les États et en devenant économiquement, politiquement, moralement. Ça fait les dirigeants de Facebook qui prendraient le pouvoir. Mmh. Est-ce qu'il s'agit d'un fantasme ou est-ce qu'il y a vraiment avoir à craindre que cela puisse devenir effectivement le cas?
Merci Albert pour votre question. Dominique Cardon, réponse rapide, j'ai beaucoup d'autres questions.
Vous voyez, donc c'est un peu la direction dans laquelle le métaverse voudrait nous emmener. Moi, je ne crois vraiment pas que ce soit un État. Je pense qu'en réalité, vous savez que les plateformes de réseaux sociaux sont plus fragiles qu'on l'imagine. Le nombre d'utilisateurs de Facebook sont en train de se déplacer. On a beaucoup de réseaux sociaux qui sont morts dans l'histoire des réseaux sociaux, qui est pourtant très 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 courte. Friendster, MySpace ont disparu. Donc en réalité, il y a beaucoup plus de fragilité. Et vous voyez bien que la crise est là actuelle. Sur Facebook, la crise de réputation est très forte.
Moyenne d'âge de Facebook, des utilisateurs aujourd'hui
Je ne saurais pas vous dire, mais c'est très vieillissant parce que les jeunes ont déserté Facebook. Mais vous voyez, c'est là qu'est le problème, c'est que les jeunes ont déserté Facebook pour aller sur Instagram et sur WhatsApp qui appartiennent au groupe Facebook.
Question de Thomas, avec ce qui est dit dans cet entretien, avez-vous des conseils pour limiter notre usage de Facebook et des réseaux sociaux en général?
Moi, un chercheur n'a pas à donner des conseils aux gens. Voilà. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est le constat que je fais.
En creux, vous nous en avez donné quand même au cours de cet entretien.
En creux, j'en donne. C'est bon sang.
Faites attention quand
diversité.
Vous relayez.
Non, c'est d'éviter. Parce que vous voyez, dans le débat qui a lieu actuellement sur la régulation sur Facebook, il y a des gens qui voudraient refermer la boîte de Pandore du numérique. Ils disent, on a donné la parole à tout le monde, l'information circule, ces plateformes sont là, elles contrôlent pas leur algorithme. Il faudrait refermer. Moi, je pense qu'il faut réouvrir. Il faut réouvrir les capacités du numérique. Et notamment dans le monde de l'information, où vous avez plein d'autres sources d'informations qui existent. Et l'idée que, comme ça, on se focalise. En réalité, Facebook est redevenu une sorte de média de masse qui nous redirige vers les mêmes types de contenus et les mêmes types d'informations. Et il faut, respirer, donner de l'air, réouvrir l'espace informationnel dont on bénéficie dans le numérique.
Dernière question, Dominique Cardon. Vous expliquez ici même en 2019 que les fake news s'étaient propagées aux États-Unis, car le monde des médias là-bas s'était déchiré. Vous disiez, ça n'est pas le cas en France. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui en 2021, 6 mois de la présidentielle?
On a en France, on le voit très bien, une stratégie qui se met progressivement en place de mettre en œuvre quelque chose qui ressemble à l'opération Fox News aux États-Unis. Vous savez que la désinformation, elle vient par le haut, et elle a été relayée massivement par une chaîne d'information télévisée massive qui était Fox News. Donc, vous voyez qu'autour, on voit bien des entreprises de Bolloré sur les grands médias. Et donc, ça, c'est toujours la même chose, La désinformation, elle passe par le relais que lui donnent les grands médias. On a quelque chose qui se joue. Et c'est pour ça que je voudrais souligner l'importance de soutenir la diversité des médias. On a aujourd'hui moi, je suis membre du Fonds pour la presse libre, qui mène actuellement une grande campagne pour essayer de soutenir les médias indépendants. L'alternative aux médias, cette diversité, elle est là, elle est déjà présente. Et arriver à soutenir cette idée, 64 médias viennent de la montrer,
lancer un appel
pour que on aille regarder un tout petit peu ailleurs que les espaces un peu pollués que nous produisent les grandes plateformes de réseaux sociaux et certains médias.
Médias indépendants nationaux, mais aussi locaux. Merci à vous, Dominique Cardon, sociologue, spécialiste des questions numériques. Je renvoie à Culture Numérique, votre ouvrage paru en 2019. France Inter.